Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Denis Péchanski, historien et membre du conseil scientifique de très nombreux lieux de mémoire, et notamment le Mémorial de Caen, où se tient actuellement une exposition qui s'intitule « Dessins assassins ou la corrosion antisémite en Europe, de 1886 à 1945 ». C'est une exposition qu'on peut voir jusqu'au 15 décembre 2017 et qui a été soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, par la commission Lutte contre l'antisémitisme et Dialogue interreligieux. Cette exposition est composée d'affiches, de propagande, cartes postales, journaux, livres pour enfants, une collection qui appartiennent tous donc au collectionneur bruxellois Arthur Langermann, né en 1942 et dont la famille a été déportée à Auschwitz. C'est lui donc qui a prêté sa collection au mémorial. C'était une initiative.
Oui, c'est bon, des liens sont tissés. On s'est retrouvés en plus chez lui, c'est extraordinaire. Il a 7000 documents. 7000 documents chez lui de toute la propagande antisémite des origines à nos jours, bon, évidemment centrée principalement sur 19e, 20e. Et sur les 7000, il y a 5000 cartes postales. J'insiste là-dessus parce que c'est l'indicateur d'une diffusion très large, voilà, de ces images de antisémites. Et dans un lien avec Stéphane Grimaldi, qui est le directeur général du Mémorial de Caen, il a été décidé de faire une exposition de à peu près de 200 documents, très fort, hein, sur l'histoire de l'antisémitisme depuis la France juive de Druon en 1886 jusqu'à 1945.
Parce que c'est aussi cette collection, il le dit, a aussi un but pédagogique pour lui.
Ah, c'est fondamentalement pédagogique. En fait, il explique... Comme vous l'avez dit, sa famille a été déportée, sa mère est revenue seule de sa famille, la famille déportée en 1944. Et lui, finalement, a pris conscience, de l'ampleur du phénomène et de la nécessité d'une transmission pédagogique et déjà d'une accumulation d'informations à partir du procès Eichmann. Donc c'est en 1961 le déclic.
C'est là qu'il a commencé, lui, à faire collection, en fait, avant...
Avant, il faisait son travail, quoi. Il a fait sa vie.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet Arthur
Langermann ? C'est un personnage assez extraordinaire. Bon, il est dans le monde des diamantaires. Il est né en 42, donc, 20 ans plus tard... assez vite, au moment où il va se construire aussi dans son travail, il va se mettre à récolter un maximum de documents. C'est en même temps qu'il entre dans la vie, en quelque sorte, sa vie d'adulte, prise de conscience. Et alors là, il va accumuler, mais partout. Et comme il a des réseaux, il a de l'argent, des réseaux, des contacts, bon. Donc il achète, il troque, il échange et il accumule, mais une collection qu'il n'a jamais présentée. C'est-à-dire qu'on arrive chez lui, on a 7000 documents, des objets, des cartes postales, des images, des dessins, on pourra revenir dessus parce que je pense que il y a quelques pièces extraordinaires qui se trouvent a exposé au Mémorial de Caen. Il a dit il faut présenter ça. Voilà. Il faut transmettre. Il s'agit pas simplement d'accumuler. Il y a une dimension pédagogique et en même temps, évidemment, il s'agit pas de se faire le vecteur de l'antisémitisme. C'est ça le défi. Et c'était aussi un défi pour la scénographie. Et le choix de Stéphane Grimaldi, ça a été de c'est l'expo elle-même en dehors. Enfin, c'est aussi une belle création, je trouve. J'ai pas de responsabilité dans la scénographie, je la trouve très réussie, je peux le dire, d'autant plus facilement, même si je suis président du conseil scientifique du Mémorial de Caen, et donc j'interviens évidemment dans cette affaire, mais là, ce choix de la scénographie, c'est-à-dire de mettre à plat, et non pas sur les murs, là, comme on voit dans les grandes expos de peinture, c'est pas sur les murs, c'est à plat, et c'est déjà un signe. Et ce qui se trouve sur les murs, ce sont les images vraies, entre guillemets, des persécutions. C'est ce qui est au-delà de la propagande, c'est-à-dire ce qui est la réalité des persécutions antisémites. Et ce qui est à plat, ce sont les images antisémites, sous toutes ces formes. Donc il y a une correspondance.
Et pour les visiteurs, du coup, cette double perception, en fait, c'est ça. Hein, oui. Tant qu'on voit l'image antisémite, on voit la...
Oui, ça permet de mettre en perspective, de pas s'enfermer dans l'imaginaire de cette propagande et aussi d'avoir évidemment en perspective la réalité de la persécution.
Donc le mémorial de Caen, c'est le plus grand espace en France dédié à la Seconde Guerre mondiale, visité par des milliers d'élèves chaque année. L'enjeu était pédagogique principalement.
Vous savez, quand vous avez 400 000 visiteurs par an, et qu'à peu près, je crois, il y a dernières années, c'était autour de 30% de scolaires, et il faut rajouter les jeunes qui accompagnent leurs parents, évidemment, on a une responsabilité particulière. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, à chaque fois, se pose cette dimension à la fois pédagogique et éthique. Quand on se retrouve, entre guillemets, entre nous, quand ce sont des expositions dans des lieux qui sont consacrés, où on sait que, voilà, on se retrouve avec des visiteurs qui sont déjà très bien formés, qui sont préconstruits, en quelque sorte, pour accepter la distance et le deuxième niveau, le deuxième degré. C'est facile. Mais quand on sait qu'on va s'adresser à des populations extrêmement diverses, et où les racines de l'antisémitisme sont encore présentes. On n'est pas face à un public conquis. On est face à un public qui est à l'image de la France. Et donc, quand on a vu le contexte des derniers mois, avant les élections présidentielles, on sait ce que ça veut dire, l'image de la France, l'image des Français. Donc ça, c'est quand même... C'était très important, cette singularité du public du mémorial de Caen. C'est le défi, c'est un défi majeur.
Le mémorial de Caen avait d'ailleurs revu sa scénographie il y a quelques années pour redonner à la Shoah une place plus centrale dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là, l'idée est d'aller plus loin, de revenir vraiment aux racines de l'antisémitisme et à la manière dont il s'est répandu à la fin du 19e siècle. Alors, rendant ainsi possible la Shoah, c'est ça le cheminement qui est à voir.
Oui, alors attention, c'est pas... Il faut faire attention au fatalisme en histoire. C'est pas parce qu'il y a eu des pogroms dans les années 1880, 1920 en Russie et bientôt dans le monde soviétique. Bon. C'est pas parce qu'on a là un développement, une accélération de l'antisémitisme que nécessairement ça allait déboucher sur la Shoah. Donc il faut faire très attention à ne pas tomber dans le piège du fatalisme. On peut très bien éviter cette logique-là. Et vous évoquez l'espace 3, et au moment où je vous parle, j'ai appris la mort de celui qui est l'un qui est l'historien qui a participé au premier chef à la construction, à la rénovation de cet espace 3, c'est Pierre Laborie. Il est mort aujourd'hui et c'est aussi une façon de lui rendre hommage que d'en parler ici, parce qu'il a vraiment essayé de fournir des clés pour les visiteurs et de faire en quelque sorte le pari de l'intelligence. De ne pas se dire, oui, il faut des images qui fassent uniquement appel à l'émotion. On a de quoi, hein. Mais d'articuler l'émotion avec l'analyse, avec la compréhension. Et dans cet espace 3 se trouve en particulier quelque chose auquel on tient beaucoup, bien sûr, c'est toute une partie consacrée à ce qu'on appelle la Shoah par balle, qu'on peut appeler l'extermination de proximité, c'est-à-dire cette extermination qui est menée non pas dans le schéma qu'on connaît bien, chambre à gaz et crématoire à Birkenau ou dans les autres centres de mise à mort, ou camps d'extermination, mais sur les marges de l'Est, là où se mènent les combats et où là, les tueries se font au bord des fosses, au milieu des villages, avec des villageois qui sont sollicités pour creuser les fosses, pour ensuite... On est dans la barbarie absolue, dans la barbarie absolue. Et là, le père Desbois a fait un travail extraordinaire avec son équipe de Yared et Nounoum pour repérer toutes ces fosses, pour retisser cette histoire. Bon. Et il n'y avait pas de lieu d'exposition permanente. Donc là, s'est fait aussi quelque chose, et encore une fois, Grimaldi a eu un rôle absolument crucial dans l'affaire. Et c'est tissé quelque chose, là, pour, entre eux, pour essayer de faire passer, de faire comprendre cette dimension de l'histoire de la Shoah qu'on connaissait très mal en France.
Mais sur cette évolution de la propagande, donc de 1886 à peu près, hein, c'est l'année, quelques années avant l'affaire Dreyfus, c'est l'année où le livre La France juive remporte un énorme succès, jusqu'en 1945, est-ce que l'imagerie, est-ce que le vocabulaire, la violence des attaques évolue?
C'est l'invention, en quelque sorte, de l'antisémitisme moderne. Parce qu'il s'appuie sur une image, mais une image avec diffusion de masse. Bon. Et il s'articule, comme d'habitude, sur d'autres rejets, d'autres images du rejet. Et ça va... Bon, 1886 est très important, parce que c'est la publication de La France juive de Drumont et en France, et où il va essayer de donner des bases pseudo-scientifiques, comme Gobineau, quoi, à cette dimension raciste de l'antisémitisme, et pour expliquer pourquoi il est nécessaire de mettre à l'écart les Juifs, qui représentent un danger, bien sûr. Et puis ça va s'accélérer, ça va s'appuyer dans les années 1880-1921 sur la situation en Russie, avec le développement de pogroms qui sont acceptés, voire relayés par l'État. Je pense en particulier au rôle de l'État tsariste dans cette période, et la multiplication de ces pogroms, en particulier en Ukraine. Et on va avoir une propagande qui va s'appuyer sur ces crimes, et qui va aider, en quelque sorte, provoquer, participer à l'organisation de ces crimes par la mobilisation des esprits. Et puis ça prend une nouvelle dimension encore après la Première Guerre mondiale, et là ça devient très intéressant pour nous, dans la mesure où on voit très clairement que l'antisémitisme est rarement isolé, et en même temps qu'il y a toujours de l'antisémitisme. C'est-à-dire que quand on cherche des responsables, des coupables de tout, de n'importe quoi, la crise, de la guerre. Bon, on a une sorte de configuration, là où, de système de représentation, pour reprendre justement les termes de Pierre Laborie, où se mêle, eh bien, après la Première Guerre mondiale, le rejet du juif et la haine du communiste ou du bolchevique. Et donc l'image du judéo-bolchevique va apparaître, va émerger, va se développer à ce moment-là. Et c'est évidemment le stéréotype du juif qui n'a pas de patrie. Et ça s'appuie sur l'image du communiste et du bolchevique. Et donc ça, on voit bien qu'à chaque fois, alors, quand on arrive dans les années 30, à l'approche de la guerre, en France, pour prendre cet exemple-là, et on pourrait y revenir, mais se combine aussi l'antisémitisme, l'anticommunisme, le pacifisme et la xénophobie, qui est vraiment cruciale en ce moment-là. Et tout ça fait système, explique comment évolue l'opinion française dans cette période, et ça se trouve dans d'autres pays, comment on a un mécanisme de repli sur soi, de rejet de l'autre, d'abandon des fondements même de la Révolution française, enfin l'héritage de la Révolution française, et cette atomisation de la société va être cruciale pour expliquer aussi la défaite majeure que la France va connaître, pas simplement les militaires, c'est la France qui s'écroule en 1940, et elle s'écroule entre autres par c'est miné de l'intérieur en quelque sorte. Et vous le voyez, l'antisémitisme est associé aux autres. Et en même temps, à chaque fois, il y a l'antisémitisme, sauf exception. Et là, on va prendre un exemple récent qui m'avait stupéfait. Arrive le Brexit. Bon, ok, le Brexit, rejet de l'Europe. On connaît le système, quoi. On est en Grande-Bretagne, tradition en Grande-Bretagne. Il n'y a quand même pas des masses de juifs en Grande-Bretagne. Eh bien, une augmentation de 36 ou 37% des actes antisémites l'année où a été voté le Brexit. Je dis, mais qu'est-ce que les juifs viennent faire là-dedans? Non, c'est, on voit bien qu'il n'y avait pas que ça. Les actes anti-musulmans, les actes les noirs aussi étaient visés. Enfin, on a donc une... on sent bien que là, les vannes se sont ouvertes. Et là, à chaque fois, on va trouver des juifs. À chaque fois. Quel que soit le sujet. Et même s'il n'y a pas de juifs. Regardez c'est la Pologne. Le nombre de juifs qu'il peut y avoir en Pologne. Et bien, on trouvera quand même des juifs. Même quand il n'y en a pas.
Mais en Pologne, on a l'impression que toutes ces images, elles continuent d'ailleurs à circuler.
Oui, parce que, parce que c'est instrumentalisé. Parce que c'est utilisé dans un repli nationaliste. Avec une contradiction entre un repli nationaliste et puis l'intégration européenne. Pour revenir sur la question de la Shoah comme élément consubstantiel de l'identité européenne. Ça l'était. Et comment là, c'est contourné? Parce qu'il y a eu entrée de ces pays de l'Est qui disent, attendez, nous, notre histoire, c'est aussi l'histoire de l'occupation soviétique. Et donc vous êtes bien gentils de nous parler des Juifs, mais nous, notre problème, c'est l'occupation soviétique. Ils ont intérêt à dire ça, d'ailleurs, parce que comme ils mettent en avant un certain nombre de leurs héros, entre guillemets, qui ont lutté contre les soviétiques, mais qui, en passant, ont quand même massacré un certain nombre de juifs. Donc, effectivement, là, on est dans une contradiction. Bon, mais on parle déjà d'Europe, alors qu'on devait parler de notre exposition, mais ça pose toutes ces questions-là. Et j'insiste là-dessus. L'antisémitisme est toujours présent, et en même temps, il est très rarement isolé. Voilà. On sent bien que ce rejet de l'autre, il est consubstantiel d'une bonne partie de la pensée du plus haut niveau jusqu'au bas de l'échelle.
Et pour revenir justement en France, cet antisémitisme, cette représentation-là, on l'a retrouvée durant la dernière campagne électorale. On se souvient notamment d'une image qui représentait le président Macron sous la forme d'un banquier, reprenant exactement les codes des caricatures antisémites des années 30. Cette image n'a pas été diffusée par l'extrême droite. Elle a été diffusée par la droite traditionnelle, qui s'est ensuite excusée en disant qu'il n'avait pas vu l'allusion antisémite.
Terrible. C'est terrible comment une diffusion peut se faire sans... Bon, cela dit, quand on sait qui était derrière le dessin et qui est... on a quand même quelques interrogations, quelques questions à se poser, parce qu'il y a des dessins assez proches qu'il avait fait avec des thématiques assez proches. Bon, donc, je veux dire, mais l'acceptation du dessin lui-même, alors même que celui qu'il portait, c'est-à-dire François Fillon... Pour le nommer, puisque c'était un dessin porté par la droite traditionnelle, par les Républicains, François Fillon, on ne peut pas penser une seconde à penser que François Fillon soit antisémite, au contraire. Mais il n'a que dans son mouvement, il n'y ait pas chez ses responsables de com, chez son entourage, il n'y a personne qui ait dit finalement ça me rappelle quelque chose.
C'est incroyable. Hein?
Ça c'est quelque chose. Et puis on disait oui, on va prendre des sanctions contre le directeur de la com ou je ne sais plus quoi. On les attend toujours les sanctions. Hein? Donc je veux dire, là on sent bien que dans les milieux, dans certains milieux, on voit se réactiver ces thématiques. Et des thématiques qui renvoient, alors là, c'est à des traînes de long, en quelque sorte. Et c'est ça le problème de la question de l'antisémitisme, c'est qu'on a à la fois des phénomènes longs, par exemple l'antijudaïsme chrétien, qui est une histoire très longue, qu'une bonne partie des chrétiens refusent, récusent parmi les catholiques, mais qui nourrit encore aujourd'hui l'aile la plus radicale de ce milieu, la preuve d'ailleurs, ce dessin qui est directement issu de cet anti-judaïsme chrétien-là, mais donc on a une histoire longue avec donc des mouvements, avec des moments où ça explose, des moments où évidemment ça s'atténue, et se greffe dessus une autre histoire, une autre racine, en quelque sorte, qui est l'origine, la dimension racialiste, scientifique, entre guillemets, de l'antisémitisme, et qui va se greffer sur cet antijudaïsme chrétien, et qui va donner l'antisémitisme des années 20, 30 et 40.
On a assisté également, lors de la fin de la campagne présidentielle, à des critiques virulentes, cette fois-là, de la part du FN, sur la manière dont on raconte l'histoire, sur l'utilité des mémoriaux. Vous, Denis Péchanski, vous êtes impliqué donc très fortement dans différents réseaux de musées et de mémoriaux. À votre avis, quel peut être leur rôle dans la lutte contre ces extrémismes?
C'est l'un des vecteurs de la mémoire collective. Et on construit une mémoire collective. Votre émission participe de la construction de la mémoire collective. La télévision, les journaux, la presse, les dessins, les mémoriaux, les discours du président de la République. Pensez au discours de 95 de Jacques Chirac ou à l'inauguration du mémorial de Drancy par le président François Hollande. On est là dans une... On voit bien, ou bien d'autres vecteurs, d'autres militants de la mémoire, comme Serge Klarsfeld, avec la lutte judiciaire, son combat politique, son combat historique. Bon. On a là toute une série de vecteurs qui participent de la construction de la mémoire collective. Donc si on commence à attaquer ces différents vecteurs, au fur et à mesure... Comment va se construire cette mémoire collective? C'est pour ça qu'il est important de veiller d'abord à la qualité de ces mémoriaux et ensuite, effectivement, à ce que ça soit des outils pédagogiques. Et la difficulté, c'est d'en faire des outils pédagogiques. C'est-à-dire de faire en sorte que les jeunes qui y vont n'y aillent pas parce que leur prof a décidé on y va, quoi. De même que on va à Auschwitz parce qu'il faut aller à Auschwitz. Il faut qu'ils ressortent avec des neurones qui fonctionnent. Et vous savez, je m'intéresse aux questions d'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. C'est-à-dire, la mémoire collective, on sait bien, c'est, on va dire, une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'un groupe ou d'une nation. Mais quand on se dit, mais attention, si on veut comprendre ce qui se passe dans la mémoire collective, il faudrait peut-être savoir ce qui se passe dans les dynamiques cérébrales de la mémoire. Et pourquoi j'en parle sur les mémoriaux? C'est parce que vous avez deux circuits dans le cerveau. Un circuit qui va directement dans ce qu'on appelle l'amygdale. Enfin, je ne vous conseille pas de l'enlever, celle-là, parce que c'est du côté des hippocampes. C'est le siège des émotions. Donc, c'est ça qui est activé au moment des chocs émotionnels. C'est la zone des émotions, la zone des victimes, du pathos, et des sidérations. Et puis, vous avez le cortex préfrontal, qui est la zone de la réflexion, de l'analyse, de la rationalité, de l'action, et donc qui va en quelque sorte contrôler la zone des émotions. Et c'est dans cette dialectique-là que va se construire l'appréhension de ce qu'on va voir, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit. Et ça, c'est crucial pour nous. Parce que quand on construit un mémorial, quand on montre une exposition, on pourrait très bien dire on va faire appel uniquement à l'émotion. Mais alors, où est la réflexion? Et si on manque la réflexion, les personnes vont sortir hébétées, sidérées. Ah là, l'amygdale, elle a pédalé un maximum. Mais sauf que, comme tout n'a pas bien fonctionné dans le cerveau, eh bien, ils n'auront pas les clés d'analyse. Et là, ce qu'on veut leur montrer avec cette exposition, je rebondis sur l'exposition de Langermann, c'est qu'effectivement, ça nous donne des clés d'analyse. Vous savez, parmi les choses, moi, les objets qui m'ont plus frappé, c'est les dessins de Carandache. Alors moi, ça me traumatise parce qu'évidemment, comme tout le monde avec les gosses, quoi, on a nos crayons Carandache. Enfin, on avait nos crayons Carandache, dessins et tout. Il a fait là des magnifiques dessins antisémites, quoi. Dramatiques. Ils sont très beaux. Ils sont antisémites. Et là, il nourrit l'antisémitisme comme d'autres nourrissent l'antisémitisme et qu'il participe en quelque sorte de la déformation des esprits. Et nous, on essaye de combattre cette déformation des esprits. Pas en faisant appel à l'intelligence.
Je vous remercie beaucoup d'être venu, Denis Péchanski. Je rappelle donc à nos auditeurs cette exposition « Dessins assassins ou la corrosion antisémite en Europe » de 1886 à 1945, qui se tient donc avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah au Mémorial de Caen jusqu'au 15 décembre 2017. C'était « Mémoire vive ». Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.